Au bord de l'océan, son emploi du temps devint immuable. Réveil au lever du soleil, promenade d'une heure, petit déjeuner, lecture jusqu'au coucher du soleil, interrompu toutes les 3 heures par l'apport d'un plateau de fruits frais. Il avait prescrit qu'on lui en apportât 4 différents à chaque fois, à choisir entre mangue, goyave, ananas, raisin, carambole, fraise, hors de prix, mais qu'importe, papaye, melon, banane, poires et pêches. Exercice physique au crépuscule. Dîner léger, coucher tôt. Toute la nuit, son magnétophone égrenait les mots qu'il avait enregistrés et qui se gravaient ainsi dans sa mémoire, libérés de soucis. Il en fut ainsi pendant 8 mois, tous les jours jusqu'au samedi midi, où la foule du week-end le faisait décamper. De retour chez lui, il lisait encore et s'imprégnait de la version enregistrée sans cesse rejouée. La lectio achevée, le rideau pouvait-il se lever sur le chaud? Fabrice possédait son texte, à moins que ce ne fût l'inverse, et il tenait son programme. Sans l'aide de personne, non seulement il savait par cœur ce qu'il s'était promis d'apprendre, mais il avait découpé son futur emploi du temps. Celui de la récitation, mais était-ce le bon mot? Il n'en était décidément pas sûr, sur les sites retenus. La France découvrait l'automne. Il était temps pour le sexagénaire de quitter l'Afrique pour prendre ses quartiers dans le pays de ses futures prouesses. C'est dans l'avion qu'il régla un point important. Il lui fallait décider du nombre de sessions nécessaires pour son interprétation. Il convint qu'il lui en fallait plus de 7. Le nombre des romans, tant sont épais 2 d'entre eux, qui ne tiendraient pas en une semaine. Il s'arrêta sur 9. Le côté de Guermantes et Sodome et Gomorrhe étant réparti sur 2 sessions chacun. C'est donc en 9 mois qu'il accomplirait sa propre œuvre. Arrivé à Paris, il se retira d'abord chez un confrère et ami parisien qui l'accueillait parfois dans son hôtel particulier de Passy. Il s'y sentait bien, choyé, en sécurité. C'est de tranquillité d'esprit qu'il avait besoin avant le grand saut. Fabrice Pelletier avait pensé au principal, mais avait négligé l'essentiel. C'est ami Nathanaël Franz Patrick qui le lui signala. Connaître Proust sur le bout des doigts, c'est parfait. Mais comment vas-tu le faire savoir? Où vas-tu t'exhiber? Qu'as-tu prévu pour l'organisation? Fabrice n'était pas un ingénu, mais il avait cru régler la question en écrivant à Élie Combray. Sans exclure de se produire ailleurs, il avait considéré que la maison de tante Léonie devait être le cadre central de ses prestations et s'était désintéressé du sujet. Quant à l'intendance, il considérait que c'était parfaitement négligeable. Pas ingénu? Finalement, il dut admettre qu'il se montrait particulièrement naïf et déconnecté des réalités. Tu dois connaître là où les scènes où tu vas monter. Tu dois être libéré de toutes les contingences matérielles. Tu auras besoin de partenaires financiers. Un staff doit t'épauler. Nathanaël parlait juste et ses mots montraient l'ampleur de la tâche. Un peu penaud, Fabrice lui confia qu'il ne veut pour l'instant que prendre contact avec la SANPAC. C'est ainsi qu'il appellerait désormais la Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray, et qu'il n'avait envisagé qu'elle pour l'aider à régler l'affaire. Sans vouloir le froisser, il ne put se contenir et leva les yeux au ciel. Et quel est ton programme avant toute représentation? Enraciné, encore et toujours la recherche en moi. Fabrice ne pouvait effectivement s'en détourner ni consacrer trop de temps aux obligations techniques. Dans les mois qui lui restaient, il lui fallait fixer, ancrer, implanter en lui toujours plus profondément sa connaissance de l'œuvre. Nathanaël s'engagea à l'aider et à faire en sorte que moins d'une heure par jour serait accordée à l'organisation. La priorité était de constituer une équipe. En fait, il était primordial de choisir et de retenir les lieux de prestation. Mais pour ce faire, des énergies étaient nécessaires. Il te faut une personne en qui tu aies toute confiance, un factotum et un responsable de la communication. Qui vois-tu dans ces fonctions? Dans le rôle de bras droit, il pensa spontanément à Antoine, son jeune frère, s'exagénère tout de même. Pour l'intendance, il n'hésita pas davantage. En guise d'homme à tout faire et de chauffeur, il retint un ancien camarade de régiment. Jacques Jean-Jean et lui avaient porté l'uniforme de l'armée de l'air ensemble dans la corne de l'Afrique, où, dit-on, le chacal lui-même, avant d'y pénétrer, fait son testament. Jacques était fils d'un épicier de banlieue destiné à succéder à son père. À 18 ans, on l'appelait Petit Jean parce qu'il n'était pas grand. À l'armée, on dépasse rarement le premier degré. Fabrice était déjà journaliste et sursitaire de 25 ans. Partageant la même chambre, ils avaient sympathisé. Une fois rendu à la vie civile, il s'était vite perdu de vue. Un quart de siècle plus tard, le lien avait été renoué lorsque Jean-Jean avait vu l'émission littéraire où Fabrice avait été invité. Le lendemain, de Lyon, où il vivait, lui téléphonait. « Monsieur Pelletier, je ne sais si vous allez vous souvenir de moi. Je m'appelle Jean-Jean et nous avons été ensemble sous les drapeaux. »« Ah, sacré Petit Jean, tu penses si je m'en rappelle et arrête de me dire vous, que deviens-tu ?» La réponse bouleversa Fabrice qui n'avait jamais été confronté à ça. Rendu à la vie civile, Petit Jean avait tout perdu et avait lentement sombré, allant au gré de ses récoltes et des vendanges, d'une ville à l'autre, de foyer en asile, vendre sa force de travail, qui était inversement proportionnelle à son maigre gabarit. Sa force de caractère faisait le tenir. Devant chaque nouvelle déconvenue, il se disait « baisse la tête et fonce ». Il avait toujours résisté à l'appel de l'alcool et, expliquait-il avec fierté, était toujours resté propre. Sans doute fallait-il comprendre le mot « au figuré » et « au propre ». Le courant rétabli, les deux compères se revirent plus d'une fois, Fabrice payant les dépenses et Petit Jean offrant son énergie communicative. Il affichait sa fierté de connaître un écrivain passé à la télé et s'en vantait auprès de ses compagnons d'infortune, puis ensuite de ses collègues quand il trouva un emploi stable dans une grande surface où, en plus de sa tâche de manutentionnaire, il se révéla indispensable pour animer les rayons. Fabrice fit appel à lui pour l'épauler, se disant qu'en plus de ses aptitudes, il avait une sûreté de jugement qu'il rassurait. Pour la communication, Fabrice sécha. Les relations de Nathanaël furent précieuses. Baignant dans cet univers, il contacta plusieurs cabinets spécialisés en relations publiques et communication, qui flairèrent la bonne affaire. Il jeta son dévolu sur talent et développement, qui mobilisa un agent et une attachée de presse.